Sophie Blanchard, infirmière déléguée à la santé publique pour l'association Azalée et en poste au sein de la maison de santé de Bartenheim.
RFI.
Amandine Zussa, je suis infirmière au centre de soins de Bartenheim, infirmière coordinatrice.
Grand reportage.
Bonjour, Luc Bocheter, médecin généraliste à la maison de santé et j'ai participé donc à la prise en charge du Covid en Alsace, dans le coin.
Pour les professionnels de santé en France, le pire de la crise sanitaire est passé, mais ils affrontent désormais les souvenirs et l'empreinte physique et psychologique que la gestion de l'épidémie a laissée en eux. Grand Reportage est aujourd'hui en Alsace, l'une des régions les plus touchées par le coronavirus, et plus précisément à la maison de santé pluriprofessionnelle du village de Bartenheim, au sud de Mulhouse. Deux infirmières et un médecin généraliste racontent comment ils ont traversé ces mois de travail sans relâche dans un contexte d'angoisse, de tension et de mort. Le tourbillon du Covid-19 en Alsace, trois soignants de proximité racontent. C'est un grand reportage de Lucille Gimbert.
C'était une période très difficile. Nous étions surmenés par le travail, parce que dans notre maison, nous étions un lieu où nous avons accueilli les patients porteurs du Covid. Ceci dit, de ma carrière, c'était une période très intéressante. On découvre quelque chose. Dans notre profession, on nous apprend des choses et toute notre carrière professionnelle, on soigne en fonction de la connaissance des maladies. C'est la première fois de ma carrière en 30 ans que je me heurte à une maladie que je ne connaissais absolument pas. Donc je la découvre avec tous ces symptômes, avec tous les traitements. Donc c'est quelque chose de passionnant pour un médecin.
Chez nous, bon, c'est venu par rapport à ce rassemblement, je pense que vous avez entendu, hein. Donc il y a eu beaucoup de cas d'un coup. Donc c'était dur parce qu'on voyait les gens arriver ici. Moi maintenant, pour ma part, je faisais une première partie, j'accueillais les patients, on essayait de pas les mettre tous en même temps. Je faisais une première prise de tension, une première prise de température. Ceux qui allaient vraiment pas bien, on appelait tout de suite le SAMU. Après, il fallait aider le SAMU. Enfin, il fallait être partout. C'était la catastrophe, c'était dur, hein, c'était dur à gérer.
Les premiers cas qu'on a découverts, c'était nous, on les soignait juste avec un masque. Et on s'est rendu compte de l'intensité de la maladie à partir du moment où le SAMU arrivait chez nous de temps en temps pour embarquer une personne qui n'était pas bien. Et c'est là, quand on les a vus habillés en tenue de cosmonaute, qu'on s'est dit, c'est peut-être pas suffisant ce que nous faisons. Au début, on avait quelques masques que des entreprises privées nous avaient fournis. Heureusement, c'était des masques FFP2 périmés qui dataient de la grippe H1N1, mais qui nous ont quand même bien protégés. Alors, des infirmières sont quand même tombées malades, mais on a eu la chance de faire des formes relativement larvées.
C'était une période très très prenante, une présence sur le terrain du lundi au dimanche, et de jour comme de nuit, hein, on n'a plus eu de vie pendant bien 3 mois, j'ai envie de dire. On s'est investi au-delà du professionnel soignant, mais vraiment humainement dans toute notre globalité. Il restait peu de monde à un moment sur le terrain et on avait un peu multicasquette sous l'aspect psychologique, sous l'aspect du suivi du Covid, du confinement aussi, parce que ça aussi, ça a créé des sacrées séquelles chez certains patients qu'on avait en charge. Il y a eu des décès de médecins traitants dans le secteur. Donc les patients qui avaient leur médecin traitant n'avaient plus de médecin traitant. Et donc ils arrivaient aussi, il fallait les prendre en charge.
C'était impressionnant. Certaines personnes, elles étaient en état catastrophique, quoi. Ils venaient, ils franchissaient la porte. Alors la plupart, en plus, il y avait tellement de gens qui appelaient ici, donc ils n'arrivaient pas à joindre un médecin ou la secrétaire. Donc ils venaient d'eux-mêmes. Et bon, je me rappelle d'un couple qui est arrivé. Lui, il tenait sa femme. Elle marchait, mais c'était limite, elle allait s'évanouir. Et quand on a mis la saturation au doigt pour voir donc le taux d'oxygène, elle était à 60. Et normalement, il faut avoir 99. Donc on l'a direct mis en salle d'urgence. On lui a donné l'oxygène. Et on a tout de suite appelé le SAMU qui est venu après en 10 minutes. Et puis elle est à peine sortie. Là maintenant de l'hôpital, et il était vraiment virulent, quoi, ce virus. C'est des images qu'on n'oubliera pas, ça c'est sûr.
On était tout le temps sous pression pendant tout ce temps là. On a eu, même là, hein, on a eu beaucoup de morts et c'était plusieurs par jour, hein, autant à l'hôpital que dans les petits villages et les secteurs ici. Hein. Je veux dire, là dans le village, pour un village de 3976 habitants, on a eu en un mois 18 personnes décédées. C'est pas rien. Et d'autant plus, c'est des gens que vous côtoyez tout le temps.
moi, quand je rentrais, j'avais du mal parce que j'avais, à chaque fois, je disais à mon mari, de toute façon, voilà, il y a les gens, ils me crachaient dessus, ils me vomissaient dessus, ce qui était vraiment mal. J'avais juste un masque. À chaque fois, je disais à mon mari, j'ai le Covid, ne m'approche plus, il faut plus dormir avec moi. Les enfants, pareil, je leur faisais plus de bisous. C'était très, très dur cette période. Donc, finalement, je suis négatif. Bon, je dormais sur le canapé, je pensais vraiment l'avoir.
À la maison, c'était comme dit, j'ai mis une parenthèse sur ma vie par rapport à mes enfants et à mon mari. La peur était de les contaminer, donc c'était très peu les côtoyer. Ça s'arrêtait à je prends ma douche, je vais me coucher, je repars, ils dorment déjà, je rentre le soir, ils dorment. Un coup de téléphone à la journée si on pouvait.
Le fait d'être soignant, quand on revenait à la maison, on était quand même rejeté un petit peu par la famille. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Donc moi, quand je rentrais, il fallait que je me signale. Quand j'étais à table, bon, j'étais un petit peu isolé, ce qui est tout à fait normal. Et c'est dur à vivre, par exemple, je n'avais pas le droit de toucher la cruche à eau ou la bouteille. Quand j'avais soif, on me disait, donc tu demandes et on va te servir. Bon, même chose pour le pain, j'avais plus le droit de couper le pain. Il fallait qu'on me le coupe. C'est dur. Je devais dormir seul dans mon lit, c'est pas agréable. Alors c'est des mesures tout à fait normales. Mais c'est dur à vivre, hein. c'est pas facile. Et j'avais besoin d'affection, c'est vrai que j'avais pas d'affection. Alors heureusement j'habite à la campagne, heureusement j'ai un chat qui lui venait me voir. J'ai aussi trois poules dans mon jardin, dont une que j'ai un petit peu élevée, que je pouvais prendre dans mes bras. Mais heureusement que j'avais ces animaux pour un petit peu me sentir mieux, parce que d'être rejeté par tout le monde... Un moment, ça devient difficile, même s'il le faut. Il le faut, il fallait que je préserve mon épouse, il fallait que je préserve mon fiston, il fallait que je préserve mon père. Mais non, d'un chien, c'est dur de ne plus être en contact avec quelqu'un pendant des semaines et des semaines. C'est long, c'est long.
Il y a un moment où j'ai eu beaucoup de colère. Par rapport au système, par rapport à ce qui se disait dans les médias, par rapport aux allocutions du président, qui disait qu'on avait du matériel alors qu'on n'en avait pas. On prenait beaucoup de risques parce que, par exemple, pour mon cas, potentiellement, je suis une personne à risque parce que je ne peux prendre aucun traitement. Et je suis allée au front au risque de savoir que je pouvais l'attraper et y passer. J'ai trois enfants en bas âge. Je suis arrivée à un moment où il fallait le verbaliser, mais vous ne pouvez pas le verbaliser à vos collègues parce qu'ils ont la tête dans le guidon aussi, parce qu'ils voient aussi des choses difficiles et que même eux n'arrivent pas forcément à le verbaliser. À votre famille, non, parce que vous ne voulez pas leur faire plus d'anxiété que c'est déjà. Et de ce fait, j'ai écrit une lettre au président de la République. C'était dire que oui, effectivement, c'est super hein, qu'on nous applaudisse pendant toute une période parce qu'on est les héros aujourd'hui. Mais en fait, on fait ça toute l'année, tous les jours. Ça fait 17 ans que je suis dans le métier. Ça fait 17 ans qu'on prend des gens qui sont pas bien, qui ont besoin de soins. On a choisi ce métier avec des horaires et des conséquences sur notre vie familiale, mais parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Alors, nous applaudir, soit, mais... C'est pas ce qu'on demandait. Ce qu'on voulait, nous, et on l'a anticipé par des mouvements de manifestation, par des demandes à l'État de pas de fermeture des lits en milieu hospitalier, de mettre les bons moyens qu'il faut. Et on nous a pas écoutés. Et on a continué à fermer tout ça. Et on leur a dit, le jour où il y a quelque chose qui nous tombe sur la figure, on ne sera pas prêt. Et on les a alertés. Et la chose qui devait arriver est arrivée. Et ça nous est tombé sur la figure. C'est ça que je disais dans la lettre au président. Je lui ai dit, vous nous envoyez au front en slip. C'est comme envoyer un militaire sur le terrain sans armes, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est incohérent, quoi.
Les souvenirs, ouais. De voir dans quel état ils étaient les gens. Moi, je faisais beaucoup les tests donc nasopharyngés pour voir s'ils étaient positifs. Et donc, quand je le faisais à la maison, chez certains, ouais, quand j'arrivais chez eux, ils étaient dans un état affalé dans le lit, limite mourant. Et les gens, je ne comprends pas, mais ils appelaient pas de suite le SAMU parce qu'eux-mêmes, je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de la gravité. Et c'est quand moi, j'arrivais, je voyais l'état, je dis, mais là, vous pouvez pas, ça ne sert à rien que je fasse le test. Là, il faut appeler tout de suite le SAMU. Là, vous devez partir. C'était souvent le conjoint ou la conjointe qui... Ils étaient étonnés. Je dis non, mais là, vous voyez bien qu'il n'est pas bien. Et ils attendaient le dernier moment Après, heureusement qu'on est venu, parce qu'il y en a plein qu'on a sauvés. Hein.
C'était une période où les médecins de la maison de santé prenaient des collègues de l'hôpital en charge, et des collègues de l'hôpital qui ont fait aussi ce métier par amour et se sont retrouvés à devoir faire des choix sur la vie des gens. Parce que quand ils arrivaient aux urgences et que... voilà, la collègue disait, ils sont entassés les uns sur les autres sur des brancards. Il y en a au sol, il y en a partout parce que c'est arrivé à l'appel. Et on sait qu'il n'y a que 2 places en réa. Et elle dit, vous vous retournez, vous les voyez, et là, vous devez faire le choix de qui, à qui vous allez donner cette place en réa. Nous, on est là pour soigner, on n'est pas là pour indirectement donner la mort parce que nos choix ont eu des conséquences. Donc voilà, ça c'est le moment émotion.
Plusieurs fois dans ma voiture, quand j'allais d'un patient à l'autre, j'étais atteint d'une tristesse terrible et à 2 ou 3 reprises, je me suis surpris à pleurer. Ça m'est jamais arrivé dans ma carrière professionnelle. Alors, est-ce que c'était l'épuisement? Est-ce que c'était parce que j'étais malade? Ou est-ce que c'était particulièrement pénible? Ou est-ce que les routes étaient tellement désertes qu'on n'avait rien à faire? Mais 2-3 fois, j'ai pleuré dans ma voiture en pensant à des patients. C'est d'abord des patients qu'on voyait 3 fois par jour, c'est pas fréquent. Alors 3 fois par jour, parce que ça a une nécessité, et puis des fois ils allaient tellement mal qu'ils rappelaient qu'il fallait aller les voir. Et puis peut-être de faire tout le temps la même chose, c'était que des Covid, à un moment du 15 mars à fin mars jusqu'au 28. C'était quasiment que des patients en Covid positif et qui étaient très mal. C'est une période où le 5e jour, le 6e jour étaient à surveiller, parce qu'on savait qu'ils pouvaient très vite décompenser, qu'il fallait les hospitaliser. On essayait de les garder à la maison parce que les gens voulaient rester, avaient très peur de l'hôpital. Mais quand le 5e jour arrivait, qu'ils désaturaient...
Les souvenirs qui reviennent, c'est comment évacuer? Ben, c'est sur le trajet de la maison, à pleurer dans la voiture, pour pouvoir se dire, je rentre et j'enchaîne mon autre vie, quoi. Donc ouais, c'est ça. Durant le Covid, j'ai dit à tout le monde que ma voiture était devenue ma meilleure amie. C'était devenu ma confidente. Alors à coup de musique à fond, à coup de je chante faux pour évacuer, je crie, je pleure, je m'arrête et je tape dans le volant parce que je me dis mais merde, c'est pas possible. Enfin voilà.
Alors moi, ce que j'avais besoin, c'est dès que je rentrais, j'allais courir. Alors bon, on n'avait pas le droit, hein, mais j'habite un petit village, donc dans les, enfin, y a les champs à côté, et je partais courir pendant 1 heure. Et ça me vidait complètement. C'était le seul truc que je pouvais faire. Donc je faisais 1 heure de footing, et après ça allait. Donc après, j'ai pas eu de problème physique. La fatigue, hein, évidemment, parce qu'on faisait beaucoup d'heures. Bon, après, je dormais bien, ça, il n'y avait pas de souci. Parce que moi, j'arrive à couper. J'arrive vraiment, ça, j'ai toujours réussi, même quand je vois des personnes, parce qu'on a des fois des patients qui décèdent, hein, des patients qui ont le cancer, et j'arrive toujours à couper. C'est un caractère, je pense, aussi qu'il faut avoir dans notre métier. Parce que quelqu'un qui est sensible, il ne peut pas faire un travail comme ça. Hein, il faut être dur, fort. Donc moi, je faisais mon footing, ça me vidait, et après, ça allait. Et j'étais opérationnelle le lendemain. Mais il reste quand même là les souvenirs, hein. Et on a perdu aussi des patients à domicile, hein, il y en avait 3, des anciens qu'on avait depuis des années, des patients chroniques, hein, où on allait pour du diabète ou pour mettre des bas de contention, des choses simples, mais qui sont partis du Covid malheureusement. Hein.
Tout le monde avait peur, donc le patient... avaient peur, c'est sûr, mais peur de l'hospitalisation. Et les accompagnants avaient peur que ça se passe mal. Le fait d'avoir peur de ne plus voir un mari ou une épouse font que les hospitalisations n'étaient pas faciles. C'était surtout l'isolement, le fait que le patient partait dans un milieu hospitalier, était coupé de la famille, qui était très angoissant. Et il faudra plus que cette situation se reproduise, il faut trouver autre chose, mais il faut plus isoler les familles. Alors c'était d'autant plus dur que nous avions notre structure militaire en place à Mulhouse, et que tout pont était impossible, tout contact était impossible avec cette structure. On n'a jamais réussi à avoir un médecin qui pouvait nous expliquer comment que ça se passait sous la tente des militaires, et la famille même n'avait pas de renseignements. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui était intolérable. En tant que médecin traitant, quand je téléphonais dans n'importe quel hôpital où se trouvait un de mes patients, j'avais toujours un réanimateur qui me parlait de mon patient. Une fois que le patient, ou si jamais le patient était sous la tente chez les militaires, il n'y avait plus aucun contact possible avec ce patient. C'est quelque chose d'intolérable. C'est pas la peine que les militaires viennent, nous prennent nos patients pour s'en occuper. Ils s'en sont bien occupés, ils en sont sortis. Mais quand même, le secret militaire ne doit pas exister dans ce moment-là.
Vous ne pouvez pas non plus, dans certains cas, les gens par exemple qui ont le cancer, on peut leur donner la main, les accompagner, mais là on ne pouvait pas trop, puisque ce virus, on ne savait pas, c'était très compliqué pour le contact et pour la relation avec le patient, quoi. Donc on faisait comme on peut, hein. Après bon, on mettait les gants et on pouvait quand même faire un, enfin moi je sais que je donnais la main s'il fallait, hein. C'était pas un souci.
Alors le plus horrible, c'était les maisons de retraite. Dans une maison de retraite, le lien social est quand même quelque chose d'important. Une maison de retraite vit, il y a de l'animation, parce que les enfants sont là, les amis sont là, et le personnel anime. Et du jour au lendemain, la maison de retraite était un espace mort. Tous les patients étaient dans leur chambre, n'avaient plus le droit de sortir, plus aucun contact avec le fils, plus aucun contact avec la fille. Et j'ai des patientes âgées, je suis sûr qu'elles sont mortes simplement de tristesse. De tristesse, et puis aussi parce que dans les maisons de retraite, il n'y avait pas assez de monde disponible pour soigner les gens. C'était une catastrophe. Je me souviens d'une patiente de 99 ans qui était bien, qui était alerte avant ce Covid. Un jour, l'infirmière m'appelle et me dit « Écoutez, allez voir madame telle et telle, elle n'est pas bien, elle ne parle plus. » Alors j'y suis allé avec un stagiaire. Une stagiaire qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs pendant cette période et qui était très très humaine. J'allais s'examiner, moi c'était une patiente contagieuse, je me suis un petit peu retiré pour me disant ça fera moins de microbes à avaler. Ma stagiaire, j'observe, puis elle tourne, elle prend l'attention. Puis finalement, elle prend la bouteille d'eau remplie à verre et donne à boire à la patiente. Et la patiente à ce moment-là dit « merci ». Donc elle avait besoin simplement qu'on s'occupe d'elle, c'était tout. Mais ce merci, ça m'a profondément peiné. Je me suis dit, mais cette personne a simplement besoin qu'on soit à côté d'elle, qu'on l'observe, comme ma stagiaire l'a fait. Ma stagiaire l'a observé, a senti qu'il fallait juste de l'eau. Mais personne ne lui donnait de l'eau, personne. Parce que le personnel n'avait pas le temps, le personnel étant en nombre insuffisant, était malmené.
Les gens portent plus le masque, voilà, les solutions hydroalcooliques, c'est devenu un peu obsolète à certains endroits, les consignes de sécurité, gestes barrières, ça passe un peu au-dessus maintenant, les gens refont comme si c'était comme avant. Alors déjà, on n'est plus comme avant et on ne sera plus jamais comme avant. Et la deuxième des choses, c'est que en ayant cette attitude-là, ça m'attriste parce qu'ils nous mettent, nous, à nouveau en danger. Dans le sens où si eux ne respectent pas des consignes à leur portée, pour lesquelles nous on s'est battu, c'est un peu irrespectueux à notre égard, mais au-delà de ça, ça va créer de nouveau des clusters, ça va de nouveau faire plein de problèmes, et ces gens-là, ils auront de nouveau besoin de nous. Parce qu'ils ont peut-être passé entre les gouttes la première fois, mais pas forcément la deuxième fois. Hein. Et nous, à l'heure actuelle, on a donné tout ce qu'on pouvait. Et si là, on nous colle une deuxième vague, on n'est pas prêt. Et on a perdu quand même des collègues soignants. Et là, si ça arrive, on n'aura pas le choix que d'y retourner. Mais est-ce qu'on sera aussi productif et aussi bon, parce qu'on a été bon, mine de rien, faut se le dire, aussi bon que ce qu'on a fait là.
Le tourbillon du Covid-19 en Alsace, trois soignants de proximité racontent. Un grand reportage de Lucille Gimbert, réalisation Pierre Chaffange.